Donc, un septième féminicide en six semaines au Québec. Et la question qui a été posée, entre autres, par Manon Massé hier, il y a eu des recommandations d'un regroupement là, de parlementaires non partisans, 190 propositions. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on doit nommer quelqu'un qui est en charge du dossier, comme on l'a fait, par exemple, pour les questions de racisme ou encore pour des questions environnementales? C'est Nathalie qui commence.
Oui, j'aurais envie de dire Paul, oui, et c'est urgent. Tu référais aux 7 féminicides depuis, quoi, 2 mois, associés à ça 14 orphelins. Lorsque ce genre de nouvelles arrive, là, écoute, c'est l'indignation dans la population. Et j'ose à peine imaginer à quoi va ressembler la fin de l'année à ce rythme-là, au rythme où on va. Oui, c'est urgent. La proposition de Manon Massé de Québec solidaire est extrêmement pertinente. J'ai envie de te dire, Paul, ce n'est plus le temps des comités ni des rapports, c'est le temps de passer à l'action. Hier, j'écoutais le premier ministre en conférence de presse. Il avait l'air plus excité de parler du stade de baseball à Montréal que de la violence conjugale. C'est pas un reproche que je lui fais, là. C'est au contraire. Je dis, je peux comprendre effectivement sa réaction, parce que c'est souvent une réaction de défensive, mais il a une occasion extraordinaire, une occasion en or d'exercer son leadership pour qu'on puisse faire des avancées extraordinaires en la matière. J'entendais tantôt à ton micro Ghislain Vallière, la police de Longueuil, qui dit on a un certain nombre d'outils, mais lorsqu'il s'agit de violences coercitives, par exemple, on a des témoignages d'hommes qui contrôlent le téléphone cellulaire de leur conjointe, qui la harcèlent sur les réseaux sociaux, qui la suivent au travail. Dis ça, on a peu de moyens pour intervenir. Deuxièmement, ça, en 2 jours, le Devoir a publié des articles fort intéressants sur, par exemple, le fait que le quart des hommes qui sont arrêtés dans des dossiers de crimes graves sont relâchés en attendant leur procès. Et pendant ce temps-là, les femmes sont obligées de se cacher dans les maisons d'hébergement. Écoute, un homme qui paye 185 $ pour obtenir sa liberté en attendant de subir son procès, je me dis, on a peut-être... Puis pendant ce temps-là, sa femme se cache dans une maison d'hébergement. On a certainement un problème de société de ce côté-là. Oui, la présomption d'innocence, mais si le système de justice était plus rapide dans ses interventions, on ne serait peut-être pas confronté à ce genre de situation. Alors, ce que ça prend, c'est un chef d'orchestre qui va effectivement... en passant, là, on a tout ce qu'il faut. Là. Tu référais un peu plus tôt aux 190 recommandations issues de ce fameux comité transpartisan qui a été annoncé. Alors, ça prend un chef d'orchestre pour prendre ces 190 recommandations et dire on commence par où? Qu'est-ce qu'on priorise? On travaille avec le système de justice, les milieux policiers, les organismes communautaires. Puis écoute, tu donnes une perspective. Là. Ça prendra 1 an pour faire ça. Mais il faut que dans 1 an, on puisse avoir progressé. Puis arrêtons d'en parler, puis passons effectivement à l'action sur ces questions-là.
Luc? Ben moi, Nathalie, je ne suis pas du tout d'accord avec toi ce matin. Je trouve que c'est, au contraire, c'est une stratégie, une tactique de l'opposition pour montrer le maillot. Montrer le maillot, c'est une expression qui est utilisée en cyclisme. Lorsqu'une équipe n'arrive pas à gagner, elle fait un coup spectaculaire pour montrer qu'elle est là, qu'elle est indignée, que, ben, dans le cas de Mme Massé, qu'elle est indignée, mais dans le cas des cyclistes, pour montrer qu'ils sont motivés et qu'ils veulent faire quelque chose. Ils essayent de monter un col plus vite que les autres ou quoi. Ils ont montré aux commanditaires qu'ils sont là. C'est tout. Il n'y a pas de... À mon avis, ça va déboucher sur rien. Et je ne vois pas pourquoi ça déboucherait sur quelque chose. Parce que tout est en place pour qu'il y ait un plan d'action qui soit déployé. Il ne s'est jamais arrivé dans l'histoire du Québec qu'il y ait un plan d'action qui est déposé par l'ensemble des partis politiques. Hein? C'est un comité transpartisan qui a travaillé ensemble puis qui a soumis 190 recommandations. Et dans ces il n'y a pas un plan, il y en a 3. Plan spécifique pour prévenir la situation de violence conjugale à haut risque de dangerosité. Le plan s'ajoute au plan gouvernemental en matière de violence conjugale 2018-2023. Puis ça fait partie du « Rebâtir la confiance », rapport du comité d'experts sur l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales. Alors là, les plans sont sur la table. Évidemment, ils ne sont pas encore déployés, mais ils sont là et ils font l'objet d'un consensus de tout le monde. Et là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est les déployer. Il y a un budget qui est prévu, 180 millions. Et il y a dans ce budget-là 9 millions qui concernent plus particulièrement les mesures qui doivent être faites pour aider les femmes qui sont victimes de violences conjugales, mais pour essayer de prévoir. Donc, rehausser le financement des maisons d'hébergement d'urgence pour les femmes et les enfants en contexte de violences conjugales, bonifier le budget du programme d'amélioration des maisons d'hébergement, étendre les évaluations de conjoints à plus de régions, mener une étude de faisabilité à l'implantation des bracelets anti-rapprochement, mettre sur pied un service juridique d'urgence pour déterminer notamment le droit de garde des enfants en contexte de violence conjugale. Tout est là. Tout est sur la table. Alors, pourquoi dire que le gouvernement manque de volonté?
Non, je dis pas que le gouvernement manque de volonté. Ce que je dis, c'est que Isabelle Charest, il faut que tu saches, Luc, que Isabelle Charest, comme ministre responsable de la condition féminine, n'a pas de ministère. Elle a un secrétariat à la condition féminine qui, selon moi, dispose de trop peu de moyens pour mettre en œuvre toutes ces recommandations extrêmement pertinentes auxquelles nous avons référé. Alors, écoute, prenons l'exemple de la DPJ. Ça, c'est un très, très, très bon exemple. Lionel Carman est ministre responsable de la DPJ, mais ça n'a pas empêché le gouvernement de nommer une directrice nationale de la DPJ qui va être, entre autres, responsable de mettre en œuvre les futures recommandations du comité spécial de Régine Laurent. Elle va avoir aussi comme mandat de réviser la loi sur la protection de la jeunesse. Le ministre Lionel Carman a manifesté une ouverture. C'est extraordinaire dans ce dossier-là. Alors, je me dis, si on veut consacrer la même énergie qu'on la démontre actuellement pour aider les enfants qui sont victimes de maltraitance au Québec, qui sont victimes de violence, je me dis, pourquoi ne pas le faire avec quelqu'un qui va, oui, relever du bureau du premier ministre, mais qui va avoir le statut de sous-ministre. Le gouvernement va la désigner par décret avec un mandat clair, des objectifs précis. Parce que là, je vais te dire ce qui va se passer. Oui, c'est beau, le rapport de 190 recommandations, mais au rythme où on va en discuter encore dans 10 ans.
Mais moi, je suis certain que sur ce point-là, tu as raison. Ça va pas tout régler et loin de là. Et quand on regarde les chiffres ailleurs dans le monde, là, on attache votre sucre avec de la broche, là, ça va vraiment pas se régler. C'est impressionnant de voir comment le nombre de féminicides augmente alors que le nombre de meurtres diminue dans beaucoup de pays. C'est pratiquement une question qui est sur sa propre lancée, qui est sur son propre rail et qui correspond pas au nombre de crimes. Et pourtant, c'est écrit noir sur blanc dans plusieurs rapports que, bon an, mal an, le nombre de féminicides suit le nombre de crimes. C'est plus vrai. Avant, on avait 10% des meurtres qui étaient des meurtres contre les femmes. Puis là-dessus, il y avait 9 sur 10 de ces meurtres-là qui étaient commis par des hommes. Et maintenant, ben ça, ça donnait environ 7 à 8. Après ça, on est passé à 12. L'an passé, on est passé à 20. Et là, on est à 7 en quelques semaines. Mais avec 7 en quelques semaines, on va peut-être atteindre 20% du nombre de crimes qui vont être contre les femmes. En Angleterre, c'est 60%. En France, c'est 80%. En Afrique et en Asie, c'est presque 90%. Donc, les meurtres contre les femmes, les féminicides, sont des meurtres qui ne correspondent pas à la logique des meurtres habituels. Et d'ailleurs, dans les 8 meurtres qui ont eu lieu récemment, c'est 7 ou 8, excuse-moi, qui viennent de se passer, les 7 qui viennent d'avoir récemment, la majorité, il n'y avait pas d'antécédent. Il n'y avait pas de plan, pas de menace répétée, ils n'étaient pas suivis, ils ont été commis de façon spontanée, ils n'ont pas été commis avec une arme qui a été achetée, ils n'ont pas été planifiés, ils ont été commis avec une hache, avec des coups de poing, avec des couteaux. Ce ne sont pas des meurtriers classiques.
Ouais, alors, Luc, raison de plus, parce que ton plaidoyer est fort convaincant, mais raison de plus de bouger plus rapidement qu'on le fait là. Écoute, le manque de volonté politique, là, et on sent que le monsieur Legault, là, au bout, il a annoncé le plan d'action en décembre dernier, plus d'argent pour les maisons d'hébergement, mais tout ça, c'est pas encore assez suffisant. Alors, je me dis, il faut appuyer sur l'accélérateur. La France, l'Espagne, l'Angleterre, les Pays de Galles, il y a une série de juridictions sur la planète qui ont décidé de passer à l'action sur ces questions-là en disant, écoutez, on ne peut plus tolérer ça dans une société comme la nôtre. Tu vois, je parlais de violence coercitive, là, je citais Ghislain Vallière, le policier de Longueuil. Il y a aussi, par exemple, le programme d'évaluation des conjoints violents. C'est le Devoir qui nous le révélait hier. C'est un programme fort pertinent qui est pu utiliser. Ça permet quoi, ce programme-là? Ça permet d'évaluer le niveau de dangerosité ou le niveau, la violence des conjoints qui sont mis en liberté, qui sont remis en liberté provisoire. Alors, est-ce que l'homme peut respecter des conditions? Est-ce qu'il est armé? Est-ce qu'il a des problèmes de toxicomanie? Tu vois, ça, c'est peu utilisé. Pourquoi c'est peu utilisé? Bien, parce que c'est parce que le programme est peu connu. Est-ce que c'est parce qu'il y a une résistance de la part du système de justice? Tu vois, Luc?
Je pense
qu'il faut accomplir une révolution dans cette matière.
Oui, OK, mais attends, pour revenir à ta question de base, là, on a une ministre de la condition féminine. Oui. On a un ministre de la famille. On a une ministre de la sécurité publique. On a un ministre de la justice. Est-ce que tu es en train de me dire que un sous-ministre, un directeur national ou un sous-ministre aurait plus de poids que la condition que le ministre de la condition féministe,
Il faut aider la condition, il faut aider la ministre. Écoute, Isabelle Charest fait ce qu'elle peut. C'est une jeune ministre, elle a peu d'expérience. Je pense qu'elle n'a pas assez de moyens pour répondre à cette déferlante de violence qui s'exprime à chaque année. Là, on parle des 7 féminicides là, mais à chaque année dans les tribunaux, c'est 10 000 dossiers de violence conjugale qui sont traités, puis il y a 22 000 infractions contre la personne qui sont faites dans un contexte de violence conjugale. Écoute, ça n'a aucun sens, là. Alors, je me dis, il faut absolument que le premier ministre exerce son leadership. Ça peut faire une différence pour aider sa ministre à atteindre tous les objectifs qu'on souhaite se fixer comme société. Es-tu d'accord avec ça ou pas? Non? Oui?
On en fera une autre chronique parce que je suis d'accord avec ton intensité, avec ton indignation, avec plein de choses. Moi, je trouve qu'il manque un gros, gros élément. Il manque une question sur la masculinité. Et c'est ce qu'ils ont fait en Angleterre.
On n'en parle pas.
Je pense qu'on est parti dans la mauvaise direction. Il y a beaucoup, beaucoup de bonnes choses qui se font au gouvernement, puis bravo au gouvernement. Mais il faut rajouter un chapitre. Je suis pas sûr qu'il faut rajouter un ministre.
Non, c'est pas d'ajouter un ministre que je dis, là, tu interprètes mal mes propos. Oui. Il faut aider.
C'est de nommer un responsable.
Bien, un chef d'orchestre. Oui, pour que ça atterrisse. Je vous le dis, là, au gouvernement, mettre en œuvre 190 recommandations, là, t'es mieux de te lever de bonne heure parce que c'est la route va être longue. La route va être longue.
D'ailleurs, je vous invite à lire ce matin, parce que, tu sais, je pense qu'il y a des gens qui sont disponibles au gouvernement. L'article dans la presse de Francis Vaille, qui a eu les confessions d'un gestionnaire. Et il donne des exemples, puis je ne ferai pas la liste au complet ce matin, là, mais vous avez tous ceux et celles qui multiplient les visites d'inspection, les mêmes personnes qui vont visiter les mêmes choses, puis tu te dis, mais pourquoi il y a tant de monde que ça? Mais il donne un exemple, et si vous n'avez pas lu l'article, je vais faire un test qui va être une forme de quiz. Sa chronique s'appelle « La maison des fous ». Alors, je vous demande la définition du vaccinateur. On a nos cliniques actuellement, là, on procède à l'opération. Qu'est-ce que c'est qu'un vaccinateur?
Ben, c'est celui qui vaccine.
OK, Luc.
Non!
Luc.
Écoute, je ne vois même pas d'autres possibilités de réponse.
Eh bien, ça prenait le gouvernement pour trouver une autre réponse. Le vaccinateur est la personne qui pose les questions aux patients sur les antécédents médicaux et obtient son consentement éclairé. La personne qui pique, vous êtes dans le champ tous les deux, là, c'est l'administrateur du vaccin et non pas le vaccinateur.
Ah.
Il paraît que le ministère a dû écrire une note de 2 pages pour expliquer ça aux gens.
C'est pas possible.
On va à la pause.
C'est pas possible.
8h45. Voici maintenant l'administrateur du service à la circulation et aux effets spéciaux de l'émission, M. Brière, qui... je t'essaie de te trouver un titre que personne ne comprend, fait que tu vas garder ta job longtemps. Alors, petit résumé. La 20, oui.